Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Bonjour et bienvenue, et particulièrement, comme il a été dit, à ceux qui sont de passage, en vacances ou en visite. Et ce matin, je souhaitais partager une méditation sur la part de Dieu et sur notre part dans la marche chrétienne, dans ce qu'on appelle aussi la sanctification, tout simplement. Autant la Bible nous rappelle que c'est Dieu qui nous appelle, on ne s'appelle pas soi-même. On voit aussi que la Bible nous dit qu'on ne participe pas à notre pardon. C'est Jésus-Christ qui a pris sur lui nos péchés, qui nous acquitte et qui nous donne sa justice. Nous n'y participons pas. C'est son œuvre à lui à 100%. Pareillement, quand elle parle de notre futur, quand nous serons transformés, glorifiés lors de son retour, ce sera purement l'œuvre du Seigneur. Là, on voit que vraiment, c'est son œuvre à 100%. Mais pour ce qui est de notre marche avec Dieu, de notre sanctification progressive, c'est comme ça qu'on va l'appeler, parce qu'elle se fait dans le temps et durera tout le temps de notre vie, ben là, par contre, la Bible est remplie d'exhortations, de conseils qui mobilisent tout notre être. Et en fait, on se pose la question, des fois, comment cela fonctionne? Qu'est-ce que nous dit la Bible là-dessus? Alors, il y a plusieurs options, peut-être. Est-ce qu'il nous est demandé une sorte d'abandon passif? Où on laisse Dieu faire tout en nous, sans aucune participation active de notre part? Ou bien, est-ce qu'après avoir commencé ma vie chrétienne par la grâce, il m'appartient de marcher avec Dieu par moi-même, par mes propres forces? Un peu comme un parent qui donnerait l'impulsion de départ quand l'enfant est en train d'apprendre du vélo, il pousse au début, et puis après il le laisse, et puis débrouille-toi, on verra bien ce qui va se passer. Est-ce que c'est comme ça que cela fonctionne? Ou non? Est-ce que tous ces impératifs ou ces exhortations que l'on trouve dans le Nouveau Testament supposent cela, qu'on doit se débrouiller après? Ou bien y a-t-il une autre voie? Une voie où la grâce et notre participation, où la grâce et l'effort ne s'opposent pas, mais au contraire où l'effort s'appuie et se fonde sur la grâce de Dieu. C'est ce dont nous témoignent à de multiples reprises les apôtres inspirés par le Saint-Esprit. Et l'un des passages les plus connus à ce propos, où les notions de grâce et d'effort sont comme entremêlées, se trouve dans Philippiens 2, versets 12 et 13, qu'on va lire ensemble. Alors, je vois que vous avez tous amené vos oreilles. C'est bien, parce qu'il n'y aura pas trop de projections, peut-être un peu vers la fin. Donc, concentrez-vous. Si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir, évidemment. Verset 12, Philippiens 2. « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. » Mes chers amis ou mes bien-aimés, selon les versions, ça commence avant l'exhortation centrale par rappeler le lien qui unit l'apôtre aux Philippiens, un lien empreint d'amour, de bienveillance. Les Philippiens, en fait, quand on lit la lettre, ont soutenu Paul par des dons financiers durant tout son ministère, prouvant leur amour pour lui et le cœur réciproque qu'ils ont pour sa mission. Et donc, Paul commence son exhortation pour leur rappeler combien ils comptent pour lui, aussi combien ils ont été obéissants déjà. Il les valorise, leur rappelle leur marche avec Dieu quand il était présent avec eux, avant de les encourager à continuer dans cette voie. Il s'appuie sur quelque chose que le Seigneur a déjà fait sur eux. Et puis arrive après le cœur de l'exhortation, « Faites donc fructifier votre salut, selon les versions, travaillez à votre salut, avec toute l'enquête qui s'impose. » Je vais le relire. « Faites donc fructifier votre salut avec toute l'enquête qui s'impose, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. » On voit que Paul vise à produire par le Saint-Esprit des chrétiens qui marchent devant Dieu, et estime que la crainte de Dieu comme une attitude saine, normale, quand on considère notre Dieu et notre Sauveur. Il est question du salut, là. Alors, ce n'est évidemment pas une crainte qui paralyse. Sinon, cela contredirait complètement l'encouragement à faire fructifier notre salut. Une crainte qui fait peur. On se rappelle que Dieu est pour nous en Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean nous dit par ailleurs, l'amour parfait bannit la crainte. Mais c'est plutôt une crainte comme une saine révérence, un émerveillement devant le Dieu qui nous donne le souffle de vie à chaque instant et qui s'est donné lui-même pour nous sauver. Ce n'est pas banal, Cela ne doit pas nous laisser indifférents, mais au contraire susciter cette saine crainte devant le Dieu vivant qui nous sauve et qui nous maintient en vie à chaque instant. Déjà, le psalmiste, en 130, verset 50, on a lu un bout du 130 ce matin, il disait, « Le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. » On trouvait le pardon auprès de Dieu. Pareil, on trouve un plein salut auprès de Dieu. Et cela devrait... Voilà, c'est juste, on ne peut pas prendre ça banalement. Donc, ils sont encouragés à faire fructifier leur salut avec la saine crainte qui s'impose devant le Dieu vivant qui les a sauvés et qui continue à les sauver, à agir en eux. Et enfin, après, arrive un petit peu la motivation, la raison, le comment pour laquelle on peut travailler notre salut, le faire fructifier, on va dire. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Le fait que Dieu agisse en nous, produisant le vouloir et le faire, ne va pas nous pousser à la passivité. C'est au contraire ce qui fonde notre participation active, notre réponse au Seigneur. Sachant que Dieu agit en moi, produisant le vouloir et le faire, alimentant le désir de faire sa volonté, cela va fonder ma participation, ma réponse à son œuvre du salut, ma participation, en moi et par moi. Cela va motiver mes efforts, des efforts qui proviennent de la grâce de Dieu. Ce matin, j'ai entendu une prière, je crois que c'est Anne-Laure qui parlait de ça, de considérer ce que Dieu était en train de faire en nous et par nous. Ouais. J'ai précisé son œuvre de salut en moi, il veut me transformer à l'image de Christ, et par moi, car cela va avoir des répercussions autour de moi, et Dieu va s'en servir pour témoigner à ceux qui sont autour de nous. Si on regarde la suite du passage, juste les deux versets qui suivent, ou le verset qui suit, juste après, car c'est Dieu qui lui-même agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Juste la suite. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu, dont va refléter notre Père, sans tâche au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous priez comme des flambeaux dans le monde, apportant la parole de vie. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, lorsque nous travaillons à notre salut, cela va avoir des conséquences dans notre vie et dans nos relations, et envers ceux du dehors, envers nos entourages. Bon, ça peut nous reprendre, ce passage. En tout cas, moi, ça me reprend, surtout quand, sans vous plaindre, sans discuter. Des fois, je me dis, oh là, il y a du travail encore. Mais je sais que le Seigneur agit en moi, produisant le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Je peux m'appuyer là-dessus pour décider de mettre en pratique la parole. Je ne suis pas laissé à moi-même, abandonné à mes propres forces, avec des standards qui me dépasseraient. Et d'ailleurs, quelques versets auparavant, dans la même épître, en Philippiens 1:6, Paul il écrit « Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Voilà le projet bienveillant de Dieu dans lequel il agit en nous. On se rappelle, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. Son projet qui a commencé par notre salut, il nous a appelés, il nous a sauvés, qui continue dans le présent, il agit en nous, produisant le vouloir et le faire, jusqu'au jour où Jésus-Christ va revenir. Et là aussi, ce sera encore pour sa grâce. Par sa grâce, c'est son projet bienveillant. Et ce principe, où la grâce de Dieu fonde notre réponse, notre action, se retrouve dans tous les domaines de notre vie. On peut le décliner dans tous les domaines de notre vie. Pourquoi nous pouvons chercher Dieu ? Pourquoi ? Parce qu'il a promis de se révéler à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Le chercher, c'est déjà être dans sa volonté. On veut connaître Dieu ? Ben, cherchons-le, à travers la parole, à travers la prière, à travers la réunion des frères et sœurs, à travers des discussions avec des frères et sœurs. Cherchons le Seigneur. Si on le cherche, il va se révéler à nous. Ce n'est pas un Dieu qui s'est caché. Il s'est révélé. Pourquoi on peut prier avec assurance aussi ? Pourquoi on peut s'approcher du trône de Dieu ? Parce que dans sa grâce souveraine, Dieu a choisi d'agir en réponse à nos prières. Il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Mais dans sa grâce, il nous demande de le prier, d'exposer nos besoins, et c'est un des moyens par lesquels il va accomplir sa volonté. Il a décidé ce qu'il va accomplir, il a aussi décidé les moyens par lesquels il va agir. Et la prière en fait partie. Pourquoi je peux partager l'évangile ? parce que le Saint-Esprit va se servir de nos témoignages pour sauver. C'est l'œuvre de Dieu, c'est lui qui va convaincre. Même temps, il a choisi dans sa grâce de m'y associer. Et je vais dire quelque chose, je vais partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et on se rend compte que, paf, le Seigneur va toucher ceux qui sont destinés au salut. Ça s'appuie sur sa grâce. Mais n'empêche, on est participant. Si on n'ouvre pas la bouche, si on ne prie pas, si on ne cherche pas le Seigneur, ça ne va pas tomber. Je crois que c'est Fred Perry qui dit ça il n'y a pas longtemps. Ça ne va pas tomber si on est assis sur un canapé à regarder Netflix. Ou une autre plateforme, qu'importe. Donc on voit que la grâce de Dieu qui est première et la responsabilité de la réponse humaine, les deux doivent toujours coexister. Et moi, l'image que j'avais, c'est un peu comme les deux rails d'une voie d'un chemin de fer qui se rejoignent que dans la pensée infinie de Dieu. On ne comprend pas toujours comment ça fonctionne. En tout cas, pas dans ma pensée infinie et limitée. Mais rien ne m'empêche de faire confiance à ce Dieu infiniment sage, même si je ne comprends pas comment cela fonctionne vraiment, l'articulation entre son action en moi et ma réponse. Il m'a promis de produire en moi le vouloir et le faire, et à cause de ce fondement de l'action de Dieu dans ma vie, je peux bouger, je peux me mouvoir, je peux travailler à mon salut, je peux me mettre en action, en réponse à ses promesses. Et en faisant cela, j'agis en collaboration avec Dieu, avec son projet. C'est incroyable, hein ? Quelle race incroyable ! Dieu n'a pas voulu faire de nous des pantins, mais des gens qui participent à son projet bienveillant. Jésus, dans Jean 15, il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » Alors la différence entre l'ami et le serviteur, c'est pas que l'ami est dispensé d'aimer le Seigneur, de lui obéir, mais il le fait par amour et il est au courant du projet bienveillant de Dieu. Alors il y a d'autres passages qui disent qu'aussi on est des serviteurs, mais n'empêche que Dieu ne nous considère pas juste comme des simples serviteurs à qui il n'a pas partagé ses projets. Il nous fait rentrer dans son projet. Il nous associe à lui. Alors on vient de voir rapidement comment l'apôtre Paul exhortait les Philippiens à fonder leur consécration sur la grâce de Dieu. Et nous allons maintenant lire comment Paul, lui-même, voyait l'effet de la grâce de Dieu dans sa propre vie et comment il a répondu à cette grâce. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10. Juste pour refaire un petit peu le contexte avant de lire le verset, l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens quel est le message de l'Évangile, à savoir Jésus-Christ mort et ressuscité selon les Écritures. Et c'est cet Évangile que lui et les autres apôtres proclament. Et il est dans ce passage aussi obligé de défendre son apostolat, non pas pour sa gloire personnelle, mais pour que le message de l'Évangile qu'il proclame soit reçu comme émanant d'un apôtre de Jésus-Christ. Ce n'est pas son message personnel à lui, ce n'est pas lui qui l'a inventé, il l'a reçu. Mais cette annonce d'une bonne nouvelle qu'il a reçue, eh bien, le fait qu'il soit un vrai apôtre donne de l'autorité à ce message. Et c'est un peu ce qu'il va dire. Et en même temps, il va parler de la grâce de Dieu. En même temps qu'il défend son apostolat, il montre comment la grâce de Dieu a agi en lui et peut agir envers tous ceux qui le reçoivent. C'est dans 1 Corinthiens 15, versets 9 et 10. « Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre... » C'est Paul qui parlait. « Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre... puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qui m'a témoigné n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche, d'autres versions, j'ai travaillé, donc j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc on voit dans ce passage que Paul reconnaît que tout ce qu'il est, un ancien persécuteur devenu apôtre, est totalement immérité. Il le doit à la grâce de Dieu. Il souligne aussi que cette grâce a eu des fruits et n'a pas été inefficace, vaine. Suite à cette grâce, il a peiné à la tâche ou travaillé selon les versions. Bref, Paul a fait des efforts en réponse à cette grâce, a mobilisé toutes les capacités que Dieu lui a données, et cette même grâce, qui est le fondement de son travail pour le Seigneur, agissait en lui et avec lui dans ses efforts. C'est comme un cercle vertueux. Et à la fin, toute la gloire revient à Dieu seul. Mais on voit aussi, on ne peut pas y échapper, que la grâce de Dieu nous appelle à nous mobiliser pour le Seigneur. Tout a été par grâce dans la vie de Paul. Cela lui a évité l'épuisement du légalisme, des mérites pour gagner son salut ou son apostolat, mais cette grâce n'est pas non plus une grâce à bon marché. Elle n'a pas été un prétexte à l'indolence spirituelle, à une sorte de paresse spirituelle. Je me rappelle Norbert, je vais te citer sans te l'avoir prévenu, Norbert, qui nous racontait il y a un jour dans un message, ça m'avait frappé, qu'il avait demandé à ce que le Seigneur lui parle par rêve. Et puis le Seigneur lui avait dit, paresseux, cherche-moi. Excuse-moi Norbert, hein, mais ça nous arrive tous, hein, voilà. Désolé. Voilà. Donc on voit que cette grâce, elle motive et soutient l'effort de Paul. Et c'est la même chose qu'il exhortait les Philippiens, et par là même tous les chrétiens qui lisent ces exhortations. Quand on demande à Jésus, on va revenir à des paroles de Jésus, là, on va passer à des paroles de Jésus. Quand on demande à Jésus quel est le commandement le plus grand, il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ton énergie, et ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Donc on voit que notre être entier, toutes les dimensions de notre être sont mobilisées pour aimer notre Créateur et Sauveur, et notre prochain comme nous-mêmes. Notre volonté est mobilisée, nos capacités affectives, intellectuelles, tout ce que Dieu nous a donné pour être en relation avec lui et avec les autres. Alors cela peut nous sembler impossible, trop difficile, et c'est normal. C'est à la fois l'exigence de quelqu'un qui nous aime et qui veut le meilleur pour nous. Être en bonne relation avec lui et avec les autres. Mais lorsque Jésus, dans les évangiles, répond à la question du plus grand commandement, qu'est-ce qu'il fait ? Il cite un passage de l'Ancien Testament, Deutéronome 6,5, qui reprend la même chose. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Puis il rajoute un bout de Lévitique après pour ton prochain comme toi-même. On voit que tout est mobilisé. Et plus tard, si on lit tout Deutéronome, dans le même livre du Deutéronome, Moïse, à la fin, il va prédire un peu les bénédictions. Enfin, il va avertir les bénédictions qui suivront l'obéissance du peuple et les châtiments qui seront la conséquence de son idolâtrie. Et puis, il va prédire aussi, il va prophétiser que le peuple va s'éloigner du Seigneur et va revenir. Et quand ils l'appelleront le Seigneur, ils reviendront à lui. Et il va donner les conditions d'un vrai retour à Dieu. Et en Deutéronome 36, regardez ce que dit Moïse, comment va se faire ce vrai retour à Dieu. L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants, pour que vous l'aimiez de tout votre cœur, de tout votre être, et que vous viviez. Donc, ce commandement n'est possible qu'avec un corps circoncis. Et cela s'est réalisé pleinement pour nous à la Pentecôte, pour les premiers chrétiens, et depuis pour tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Notre cœur est régénéré, transformé, réorienté. C'est cela le cœur circoncis. Il est régénéré par le Saint-Esprit. Et à cause de cette œuvre de grâce, nous pouvons aimer Dieu, travailler à notre salut par sa grâce. Même, certes, on sait que c'est de manière imparfaite, mais c'est à cela que nous voulons tendre, marcher avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, un psaume traite de la tension que le croyant peut ressentir entre son désir, attention à laquelle nous sommes tous soumis. En tout cas, moi, je m'y reconnais quand je lis ce psaume. Et je pense que ça va vous parler aussi. Hein. L'attention qu'on peut ressentir entre notre désir, notre volonté de plaire à Dieu, de marcher avec lui, de travailler à notre salut, comme le dit Philippiens, et notre incapacité à le faire par nous-mêmes. Et dans sa relation avec Dieu, le psalmiste ne cesse de faire appel à lui, lui demandant son aide, son soutien, dans sa volonté de marcher avec lui. Et on trouve tout cela dans le psaume 119. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas lire le psaume 119 au complet. Il y a 176 versets et il paraît que je dois chercher mon fils à midi. Donc, voilà, hein, on ne va pas lire tout. Mais on va lire quelques versets. Donc, dans les trois premiers versets qu'on ne va pas lire, dans les trois premiers versets, le psalmiste déclare « Heureux ceux qui sont intègres, qui suivent les préceptes du Seigneur, qui cherchent à lui plaire. » C'est un petit peu le but qui est visé. Marcher avec le Seigneur. Mais par contre, dans la suite du psaume, le psalmiste va s'adresser directement à Dieu. Les trois premiers versets, il déclare des choses, mais il semble, on voit une vérité qui est donnée, un but qui est donné. Après, il va donner la réalité et comment on le vit. Il va s'adresser à Dieu, directement à Dieu. Tout le reste du psaume est une prière où l'auteur dit « tu » en parlant à Dieu et « je » en parlant de ses réponses. On a comme une fenêtre ouverte sur un croyant qui est d'une grande honnêteté sur son désir et sa volonté de suivre l'Éternel et qui sait que sans le secours de ce même Éternel qui veut suivre, il n'y arrivera pas. Parce qu'il est très honnête aussi sur ses difficultés. Et donc, on peut se l'approprier. Déjà, c'est à l'Éternel que le psalmiste s'adresse. L'Éternel, chaque fois que vous voyez ça dans la Bible, en tout cas dans nos Bibles protestantes, dans la Bible catholique, on va voir Yahvé, dans la Bible anglaise, c'est The Lord, mais l'Éternel, c'est le Dieu de l'Alliance, son nom. C'est celui qui s'est révélé à Moïse en disant « Je suis celui qui suis ». Excusez-moi, « Je suis celui qui suis » ou « Je suis ». Mais c'est comme ça que les protestants, un gars qui s'appelait Olivier Tang, a traduit ce nom en disant « l'Éternel ». On le retrouve dans la plupart de nos Bibles protestantes. En tout cas, c'est le Dieu, c'est le nom du Dieu qui a une relation avec le peuple qu'il a racheté et les croyants qui le composent. Le psalmiste s'adresse donc au Dieu qu'il a racheté, avec qui il est dans une relation d'alliance. Ce n'est pas un inconnu, c'est un Dieu qui lui veut du bien et qu'il a déjà prouvé. Et très rapidement, et tout au long du psaume, il va régulièrement appeler à l'aide de son Seigneur pour qu'il soit avec lui dans ce qu'il vit. Par exemple, au psaume 10, « Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. » Quand on lit la première partie du verset, ça semble juste s'appuyer sur sa volonté, sur sa décision de plaire à Dieu. « Je veux te plaire de tout mon cœur. » Mais aussitôt, celui-ci sollicite l'aide du Seigneur pour soutenir sa volonté. « Ne permets pas que je dévie de tes commandements. » Et par là même, il prie, il entre en relation avec son Dieu, qui va forcément le guider dans son désir de lui plaire. Alors là, on le lit de suite, c'est pas dit que c'est immédiat, ça va être tout un parcours de vie, où le Seigneur va l'amener à marcher de plus en plus avec lui. Et il y a des dizaines de versets de ce type dans tout le psaume, comme je disais, il y a 176 versets. Alors on va juste commencer à regarder par un paragraphe de ce psaume, dans les versets 25 à 32, Nadège, je ne sais pas si tu... si on peut le projeter un peu, où on va avoir un aperçu de la manière dont l'auteur prie son Dieu, lui expose qui il est et s'attend à lui. On va lire les versets 25 à 32. Il y a 22 paragraphes comme ça, donc j'en ai choisi un. Je suis collé à la poussière, sauve ma vie selon ce que tu as promis. Je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu, apprends-moi tes commandements. Fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets pour que je réfléchisse à tes prodiges. Je suis accablé de chagrin, relève-moi conformément à ta parole. Détourne-moi du chemin du mensonge et dans ta grâce, fais que je vive selon ta loi. J'ai choisi le chemin de la fidélité, je me conforme à tes décrets, je me tiens attaché à tes édits, épargne-moi la honte, ô Éternel. Je veux courir sur le chemin de tes commandements, car tu m'en donnes une large compréhension. On voit le verset 25, « Je suis collé à la poussière, sauve ma vie selon ce que tu m'as promis. » On voit que naturellement, le psalmiste est attaché aux choses de la terre. Ça nous rappelle notre condition. Hein. Il a besoin du salut et rappelle à Dieu ses promesses. Il est un Dieu de vie qui nous réveille spirituellement. Nous, en tant que croyants de la Nouvelle Alliance, nous pouvons nous rappeler que Jésus nous dit « Je suis la résurrection et la vie ». Il y a un domaine de notre vie où nous semblons collés à la poussière, où c'est compliqué. Jésus nous dit, je suis la résurrection et la vie. Il n'y a pas de voie sans issue avec Jésus. Prenons ces passages et méditons-les, et puis mettons-y nos vraies difficultés dedans. Je suis collé à la poussière dans tel domaine. Hein, on peut. Et puis le psalmiste, il a un dialogue honnête, authentique avec son Dieu. Au verset 26, il dit « Je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu. Apprends-moi tes commandements. » On voit qu'il a une relation honnête avec son Dieu et a besoin d'apprendre ses commandements. Une relation de maître en disciple et une relation de confiance. Sa conduite n'était peut-être pas parfaite. Quand il dit « Je t'ai exposé ma conduite », peut-être qu'en fait, il se rend compte que ça ne va pas. Mais il a avoué au Seigneur, il a exposé sa conduite, sachant qu'il va trouver du secours auprès du Seigneur. Peut-être que l'auteur n'était pas sûr du chemin qu'il empruntait aussi. Il s'en remet honnêtement à son Dieu et demande son éclairage fondé sur sa parole. Au verset 28 aussi, il se dit accablé de chagrin. Au verset 29, on voit qu'il a un combat intérieur, des luttes contre la tentation. On relit le verset 29, « Détourne-moi du chemin du mensonge. » On voit que comme nous tous, eh bien, il y a un combat, lui. Il y a des tentations. Il peut être attiré par certains péchés. On peut très bien remplacer par ce « je crois qu'il est légitime de le faire, je suis détourne-moi du chemin du mensonge. » Puis on peut mettre des difficultés, des combats intérieurs qu'on a. Mais en même temps aussi, il ne va pas en rester à ce constat honnête, car il sait qu'il a un Dieu qui agit. Et accablé de chagrin, il demande à Dieu de le relever conformément à sa parole. Il connaît son Dieu et ses promesses. Pareil, là, il n'est pas dit que le relèvement de Dieu va être instantané. Mais il est entré dans une relation avec son Seigneur, il s'attend en lui, il a ouvert une voie d'espoir, et dans la relation avec le Seigneur va le relever. Dans ses combats intérieurs, dans sa lutte contre le péché, il dit, donc on relit le verset 29, « Détourne-moi du chemin du mensonge et dans ta grâce, fais que je vive selon ta loi. Dans ta grâce, fais que je vive selon ta loi. » La loi, c'est la parole de Dieu en général, hein. Ce n'est pas juste les 10 commandements. Là, hein. Dans le psaume, c'est des mots un peu généraux qui parlent de la parole de Dieu, précis et généraux à la fois. À quoi ça nous rappelle? Ça nous rappelle que travaillez à votre salut, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est la même notion qui dit autrement et qu'on peut s'approprier à travers une prière. Et là aussi, la prière du le verset 29, hein, « Détourne-moi du chemin des mensonges et dans ta race fait que je vive selon ta loi », cette prière, c'est le combat de toute une vie, ce n'est pas un instantané. Je ne sais plus si Luther ou Calvin ou les deux qui disaient « La vie chrétienne est une repentance continuelle ». Sans cesse, Dieu change nos pensées, nous remet en question. Des fois, on pense quelque chose de Dieu, puis on se rend compte, en lisant la Bible, en parlant avec des frères, quelques temps après ou des années après, des fois, « Ah ben mince, j'avais pas compris ça du Seigneur ». Et puis ça va changer des choses dans nos vies. C'est une relation continue. Il sait aussi que pour comprendre la volonté de Dieu, il a besoin que ce dernier l'éclaire, l'enseigne. Si Dieu ne se révèle pas à nous, ce n'est pas nous tout seuls qu'on va trouver. Hein. Et c'est pour cela qu'au verset 26, il demande « Apprends-moi tes commandements ». Il y a un apprentissage, ça prend du temps. Et en même temps, nous, on se mobilise dans cet apprentissage. Ben, on va chercher le Seigneur, on va demander des conseils, on va ouvrir la parole, on va prier, on va partager l'évangile, enfin, on va se mobiliser à la réponse, à la grâce de Dieu, et dans sa grâce, Dieu en retour va nous travailler aussi. C'est un cercle vertueux. Au verset 27, « Fais-moi discerner les chemins tracés par tes décrets pour que je réfléchisse à tes prodiges. » Le psalmiste veut comprendre la manière dont Dieu agit et réfléchir à ses prodiges. Tout ça, comme je vous disais, demande une relation avec Dieu, une communion, du temps passé à prier, à méditer, à étudier, à réfléchir. Oui, la réflexion n'est pas mise de côté, elle a été créée par Dieu aussi. Au verset 32, c'est le dernier du passage là, « Je veux courir sur le chemin des commandements car tu m'en donnes une large compréhension. » Puisque Dieu l'instruit, lui donne une large compréhension de ses commandements, il veut courir sur le chemin des commandements de Dieu. Dieu l'instruit et en réponse, il désire obéir. Donc vraiment, c'est un encouragement à lire ce psaume et à vous l'approprier dans vos combats, dans vos difficultés, dans vos sujets de reconnaissance, bref, dans tout ce qui fait notre vie. Parce qu'on voit que le psalmiste, là, oui, il a écrit dans la parole, mais avant, il a vécu. Et il a une relation avec Dieu pour écrire ça. Et pour terminer, j'ajouterai deux autres versets qui, je pense, correspondent particulièrement à ce que l'on vit dans notre société. C'est les versets 36 et 37. Je ne sais pas s'ils y sont, sinon je vais les lire. Les versets 36 et 37. Comme je vous dis, il y en aurait plein d'autres, mais voilà. « Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers le profit matériel. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. » Là encore, nous voyons l'honnêteté du psalmiste qui demande à l'Éternel d'incliner son cœur vers ses enseignements et de le faire vivre dans ses voies. Il sait que sans l'action de Dieu dans sa vie, qui va créer le vouloir, incline mon cœur, et le faire, fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. S'il est abandonné à son propre cœur, il va incliner vers les choses matérielles et vaines plutôt que vers son créateur et sauveur. Et je pense qu'il en est facilement de même pour nous. Et c'est pour ça que nous pouvons demander l'aide du Seigneur et que le Seigneur aura plaisir à venir en relation avec nous et à répondre à nos prières. Parce que si nous désirons marcher avec Dieu, il va répondre. Si nous désirons le connaître, il va répondre. Ça va prendre du temps, des fois ça ne va pas être parfait, mais c'est toute notre vie chrétienne. Et pourquoi on s'y retrouve autant ? C'est que malgré le vernis technologique de nos sociétés, le cœur humain, il n'a pas changé. C'est pour ça que quelqu'un qui a écrit ce psaume il y a peut-être 3000 ans, ça parle encore vraiment à nos cœurs. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne toutes choses, qui nous révèle combien tu es un Dieu bon et compatissant. Merci Seigneur parce que tu nous as attirés à toi et sauvés. Et merci de continuer à nous attirer, à produire en nous le vouloir et le faire conformément à ta parole chaque jour de nos vies. Nous te le demandons, Seigneur, en ton précieux nom, Jésus. Amen.